Le livre de Frog. Roman,
discussion,
échange,
livre.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
page,
invité,
marque-page.
Le livre de Frog.
Vous êtes toujours sur Radio Grenouille, c'est maintenant l'heure du livre de Frog. Aujourd'hui, nous recevons le dessinateur Jordi Valbuena qui nous lit tout de suite un extrait du livre qu'il a choisi pour cette émission, La harpe d'herbe de l'écrivain américain Truman Capote, paru en 1951.
À la sortie de la ville, quand on prend la route de l'église, on ne tarde pas à atteindre une colline toute éblouissante de dalles blanches et de fleurs bronzées. C'est le cimetière baptiste. Tous les nôtres y sont enterrés. Les Talbot, les Fenwick, ma mère repose à côté de mon père. Et les tombes des parents, une bonne vingtaine, sont disposées autour comme les racines d'un arbre de pierre. Au pied de la colline, il y a un champ de hautes herbes indiennes qui change de couleur avec les saisons. Allez les voir en automne, à la fin de septembre, quand il a pris la couleur rouge d'un coucher de soleil, quand des ombres écarlates y soufflent comme des lueurs de feu, et que les vents d'automne tirent des feuilles sèches une musique de soupirs humains, une harpe de voix. Au-delà du champ, ce sont les bois, les ténèbres des River Woods. C'est sans doute au cœur d'une de ces journées de septembre, alors que nous étions dans les bois à chercher des racines, que Dolly me dit « Entends-tu ? C'est l'harpe d'herbe. » Elle raconte toujours quelque histoire. Elle sait l'histoire de tous les gens qui sont sur la colline, de tous les gens qui y ont vécu. Et quand nous serons morts, elle racontera la nôtre également.
Jordi Valbuena, bonjour.
Bonjour.
Et merci pour cette lecture. Bonjour Élodie aussi.
Bonjour, bonjour Jordi.
Donc merci d'avoir accepté cette invitation aussi, Jordi, au livre de Frog. Élodie le disait en ouvrant cette émission, vous êtes dessinateur et vous travaillez plus particulièrement dans le domaine des dessins animés, notamment sur les storyboards de séries d'animation comme Le Petit Prince ou Sonic, pour ne citer que. Vous avez également créé les dessins d'un jeu de société qui connaît également un très grand succès en ce moment, puisqu'elle a été notamment élue jeu de l'année 2015 en France. Il s'appelle Colt Express et il est édité par Ludonote. Enfin, pour finir de vous présenter rapidement, vous êtes également juge national de gymnastique artistique.
Et voilà.
Voilà, je le dis parce que c'est comme ça que nous nous sommes connus et que nous avions le plaisir de discuter longuement, autour de repas le soir, de littérature et de, voilà, du restaurant au studio de Radio Grenouille. Il n'y a qu'un pas et nous parlons littérature encore et toujours, avec grand plaisir. Donc, pour cette émission, vous nous avez proposé de parler de La harpe d'herbe, The Grass Harp, un des premiers romans de Truman Capote, paru en 1951, et que nous pouvons retrouver aujourd'hui en traduction française dans la collection L'Imaginaire de Gallimard. Truman Capote, donc, auteur américain, né en 1924, décédé en 1984, qui a peut-être autant marqué par sa personnalité que par son talent littéraire, puisque il est également l'auteur de deux romans plus particulièrement connus, Breakfast at Tiffany's, Petit déjeuner chez Tiffany, publié en 1954, et In Cold Blood, De sang froid, publié en 1966, dans lequel Capote, en utilisant les ressorts de la fiction, retrace le parcours réel celui-ci de deux assassins, marquant ainsi la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la non-fiction ou le roman vérité. Donc nous aurons certainement l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette émission, mais on va revenir pour l'instant à La harpe d'herbe qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le roman que vous avez choisi. Donc un très très joli roman, tout en tendresse et en poésie, et c'est ainsi que j'avais d'abord envie de le présenter. Donc je vais quand même aller un peu plus loin, en resituant un petit peu l'action et les faits. Nous sommes donc dans la première moitié du XXe siècle, en Alabama, un état du sud des États-Unis. Colin Fenwick, un jeune garçon orphelin de 11 ans, est accueilli chez deux de ses cousines, toutes les deux vieilles filles. Il y a Verena, celle qui gère la maison et les affaires familiales, sévère, austère, et puis Dolly, beaucoup plus douce, très effacée et même un peu folle, puisqu'à un moment donné, un des personnages dit au petit garçon on sait très bien que Dolly est folle, tout comme toi, ou inversement, je ne sais plus, mais voilà. Quand Verena veut obliger à un moment donné Dolly à lui livrer le secret d'un élixir dont elle seule connaît la recette afin de créer une usine pour exploiter cet élixir à grande échelle, Dolly décide de s'enfuir et elle est accompagnée dans cette fuite par Colin, le jeune garçon, et par la vieille servante noire Catherine. Tous les trois décident alors de partir s'installer, pas très loin en réalité, en haut d'un arbre, dans une cabane à la lisière de la forêt. Une cabane qui est décrite comme un bateau d'où l'on peut côtoyer les rivages nuageux de des rêves. C'est pour reprendre la description de Dolly. Et tout le roman va en fait nous raconter cette aventure. Comment ces trois personnages vont s'installer dans la cabane, comment ils vont y être rejoints par d'autres personnages, par Hailey, le juge, Sister Ida et ses enfants. Comment ils vont résister tous ensemble à la volonté des gens du village de les déloger de cette cabane et de cet arbre. Et comment enfin ils vont finir cette parenthèse qui marquera pour tous un moment charnière de leur vie. Voilà donc pour la situation. Je propose donc maintenant de rentrer un peu plus à propos dans la discussion que j'entamerai avec la question traditionnelle du livre de Frog. Jordi, pourquoi ce livre ?
Eh bien, d'abord, je voulais simplement ajouter un truc à ta description, c'est que je suis né à Barcelone. C'est pour expliquer mon accent. Peut-être l'audience se demande. Si je dis un mot qu'on ne comprend pas, eh bien, ça vient de ces choses. Ça fait 10 ans que j'habite en France quand même. Donc, La harpe d'herbe, c'est un roman qui m'a profondément marqué dans ma jeunesse, dans mon adolescence peut-être. J'avais des amis qui m'ont... J'ai débuté dans la lecture, dans la littérature. J'ai commencé à lire un peu de classiques. Et une des premières choses que ça a tombé dans mes mains, c'est Truman Capote. C'est un ami qui m'a recommandé. Et j'ai dit, tiens, je vais essayer. Il n'était pas trop long, le roman. Ça fait 150, 200 pages, ça dépend de l'édition. Et je l'ai dévoré et j'ai trouvé un univers qui me correspondait énormément. Après, j'ai lu l'autre grand classique de Capote, Du sang-froid. Je trouve que Du sang-froid, c'est pas un classique de la littérature américaine pour rien. C'est un chef-d'œuvre. Mais dans La harpe d'herbe, il y a un truc qui me touche plus personnellement à moi. Je trouve que... il y a une chose qui est, pour moi, on réussit pas énormément ça. C'est parler des personnages qui sont hors du commun, mais dans un point de vue très quotidien, comme si c'était des personnages normaux ou normales. Tous les personnages qui peuplent ces romans, l'harpe d'herbe, autant les positifs ou les plus négatifs, sont très très particuliers. Ce ne sont pas des personnages anodins. Mais quand même, sont traités comme si c'était des personnages que tu retrouves tous les jours dans ta vie quotidienne, complètement normal. Ils ne sont pas farfelus. Et ça, c'est un truc que moi parce que peut-être moi, je n'étais pas aussi dans la norme. Dans mon adolescence, tu te cherches, tu ne te trouves pas forcément comme tout le monde. Et moi, dans ces romans, je trouvais un univers qui m'acceptait, et qui m'acceptait à moi et à tout le monde, qui était peut-être différent. Et j'ai trouvé ça fantastique, cette tendresse qu'il a pour des personnages qui sont différents. Et il les aime, Capote, ça se voit. Il les aime, les personnages, précisément parce qu'ils sont différents, mais dans un univers complètement quotidien et même traditionnel, presque.
Alors, moi, je voulais, pour enchaîner, vous remercier d'avoir choisi ce livre que je ne connaissais pas. Et je suis peu familière de cette œuvre de Truman Capote aussi. Et j'ai été vraiment séduite. C'est vraiment le mot que je veux employer. Et dès les premières phrases, il y a une espèce de tenue qui tient... Enfin, voilà, cette tenue, elle est là jusqu'aux dernières phrases. Peut-être que c'est à cause de cet arbre sur les branches duquel finalement on est situé pendant pratiquement tout le tout le livre. Ce Melia Azedarak, ça me plaisait de redonner l'espèce parce que je suis allée dans mon encyclopédie des arbres pour aller vérifier à quoi ça ressemblait.
Moi aussi, je l'ai fait.
Moi, j'ai voulu mémoriser le nom pour le dire, mais heureusement que c'est toi qui l'as fait.
Voilà. Il a bien d'autres noms, cet arbre. On l'appelle le lilas de Perse, le margousier ou encore l'arbre à chapelet. Donc, c'est le refuge des personnages dont nous parlions. Et je voulais aborder la question de l'enfance qui me semble extrêmement présente dans ce livre, puisqu'on est placé du point de vue de l'enfant, et même de l'enfance, je dirais, puisqu'on était étonné de se rendre compte de l'âge de certains personnages. On a 60 ans, ce n'est pas possible. On pensait qu'il y a quelque chose de vraiment enfantin. Et il y a quelque chose d'enfantin aussi dans cette idée de partir. Quand on discutait de ce livre pour préparer l'émission, je disais à Erika que c'était vraiment les enfants fâchés qui décident d'aller faire leur baluchon, de mettre le pyjama et le paquet de gâteaux et de dire à ses parents, eh bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais. C'est un petit peu ce qui se passe. Je voulais retrouver lire le passage où il en est question, où Dolly donc décide de partir, est fâchée. Verena soupira, pauvre Dolly, pauvre, pauvre petite, et où irez-vous ? La réponse, qui tarda un peu à venir, était frêle comme un vol de papillon. « Je connais un endroit. » Et un peu plus loin, au moment de vraiment partir, Dolly s'adresse à Colin et lui dit « N'oublie pas ton peigne. » C'est vrai que sur un arbre, ça paraît extrêmement, extrêmement nécessaire.
Moi, je trouve que le peigne, excusez-moi d'interrompre, ça rajoute un détail sur un truc important de cette visite, de cet stade à l'arbre, c'est la dignité. Eux, ils veulent être très dignes dans l'arbre. Ils les peignent. Pour moi, ça symbolise ça. Excuse-moi.
Oui, non, bien sûr, bien sûr. C'était une discussion. Et donc, voilà, je voulais vraiment pointer la réussite de ces sentiments de l'enfance. Est-ce que vous aussi, quand vous l'avez lu et relu et re-relu, je crois que vous avez vraiment de nombreuses lectures derrière vous, est-ce que ça vous a touché, ça? Le fait que Truman Capote arrive à nous retrouver dans notre enfance à nous, qui s'éloigne.
Ah oui, un côté l'enfance et la nostalgie de l'enfance aussi.
La nostalgie, oui.
Il est très, très, très nostalgique, hein, le roman. Je trouve que cette enfance qui cherche à trouver un espace de liberté, finalement. Ces personnages vont dans l'arbre à trouver un espace dans lequel ils peuvent être eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, Dolly s'est rendu compte que c'est plus possible dans cette maison, dans laquelle elle s'est trouvée très bien jusqu'à présent. Par un événement, elle se trouve qu'elle est plus, elle ne peut plus être elle-même. Donc, elle se trouve avec cette liberté rêvée, un peu des enfants. Et oui, je trouve que c'est fascinant, cette nostalgie qui dégage de ces livres, hein, tout le temps.
Et on le retrouve aussi, c'est quelque chose d'assez particulier à Truman Capote, ou est-ce qu'on le retrouve aussi dans d'autres romans? Parce que je sais que vous avez...
Moi, je trouve, j'ai presque tout lu. Mais Truman Capote, il y a plutôt deux étapes. Lui-même, il le dit, à partir de Breakfast at Tiffany's, il prend un style un peu plus sérieux, un peu plus cynique, avec un regard un peu plus sombre sur la société. Tandis que ses premiers romans, tous ses romans sont, il y a un côté autobiographique, même s'il les nie, tous il y a des choses, de lui ou des gens qu'il connaît. Mais dans les premières, ils sont plus basés sur son enfance à lui. Donc, il y a un côté très tendre et très rêveur et magique de l'enfance qui n'existait pas dans les romans de sa deuxième étape, du sang-froid et Breakfast at Tiffany's. Dans les premières, les Domante et l'Arpe d'herbe, aussi dans les petites histoires qu'il écrit à cette époque, c'est très magique, très tendre.
Alors, dans le livre de Frog, nous avons l'habitude de sortir un petit peu des œuvres dont nous parlons en diffusant des extraits qui nous semblent en lien avec elles. Et nous allons bien sûr pas manquer à notre habitude aujourd'hui, à la différence que pour cette émission, c'est notre invité qui nous a en fait proposé les trois extraits qui vont ponctuer notre discussion. Donc pour ce premier extrait, Jordi, vous nous avez suggéré l'ouverture de la bande-son d'une adaptation au cinéma de la Harpe d'Herbe, dirigée par Charles Matteau et sortie en 1995. Donc nous allons écouter cet extrait composé par Patrick Williams et nous en reparlerons juste après. Thank you. Alors, Jordi, quand vous nous avez proposé cet extrait, j'ai personnellement été convaincue, assez convaincue, car je trouvais qu'il rendrait très bien l'esprit et l'ambiance un peu onirique qui parcourt tout le roman. Et je trouve cette bande-son, à l'image du roman, très tendre et très douce, et presque suspendue au-dessus de la terre. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais donc voilà, ces sentiments qui sont vraiment significatifs du roman. Et c'est assez amusant, car Elodie, elle, quand elle a écouté pour la première fois, n'a pas été tout à fait convaincue dès le départ. Peut-être parce qu'elle trouvait cette musique un peu mielleuse, presque un peu cucu, comme elle disait. Alors qu'il y a une chose sur laquelle nous étions parfaitement d'accord, puisque quand je lui expliquais pourquoi elle me plaisait, on est tombé parfaitement d'accord sur ce point-là. C'était la réussite dans le roman de cette poésie très tendre qui parcourt et porte tout le roman, notamment, et on en a déjà parlé juste avant l'extrait, à travers le regard enfantin de Colline. Alors, je voulais vous poser comme question, est-ce que pour vous, il n'y a pas une des grandes forces de ce roman dans cette poésie très tendre et qui est finalement pas si facile à trouver en adoptant le point de vue d'un enfant pour ne pas tomber dans quelque chose de moins juste que ce qu'a fait Truman Capote?
Par rapport à la tendresse de l'enfance, en fait, les romans, il y a un peu deux moments dans la vie de Colin. Ça commence à 11 ans, mais en fait, ils s'en vont dans l'arbre à 16 ans.
16 ans, oui.
Donc, c'est un peu l'adolescence aussi. Mm. Et quoique lui, il est vu comme quelqu'un de petit et plutôt plus jeune que son âge. Dans les romans, on le dit plusieurs fois. Et lui, il est toujours dans cette recherche d'admirer. Par exemple, il y a un autre personnage qui s'appelle Riley. Et lui, il voudrait être comme lui un peu. Il voudrait que lui soit son ami parce qu'il veut, il veut grandir, il veut être un peu plus grand. Mais en même temps, il y a Dolly qui le pousse vers cette enfance. Mmh. Et du coup, lui, il est entre ces deux mondes. Le monde de l'enfance qui représente Dolly et le monde un peu plus adulte, que c'est Riley et un peu l'univers qui l'attend en réalité.
Et au niveau de la poésie peut-être, enfin,
oui, le côté poétique, en fait, c'est ce qui porte la musique.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup cet extrait. Je trouve que c'est une très belle musique. Après, c'est vrai que quand tu regardes la musique dans les films, la musique accentue le côté mielleux du film, qui, à mon avis, c'est une adaptation qui est jolie, mais elle ne prend pas le vrai esprit du livre. L'esprit du livre, c'est la tendresse et la magie. Et par contre, les films, ils restent dans cette tendresse, ils la transforment dans une chose un peu plus facile. C'est un terrain assez difficile à naviguer. Je trouve le côté sentimental qui est dans ces romans, c'est un terrain très, très, très facile de tomber dans les mièvres. Mm. Et je trouve que Capote, il excelle à rester dans la finesse. Et les films, il échoue un peu quand même.
Oui, ben c'est bien de remarquer parfois que les adaptations ne sont pas toujours à la hauteur des livres, que les livres réussissent des choses que le cinéma ne peut pas forcément toujours atteindre, même à coup de grands moyens. Je voulais revenir un peu sur l'écriture de Truman Capote et sur le rythme du livre. Parce que j'ai trouvé ce livre, je le disais, très bien tenu et très très bien rythmé. Ça se lit vraiment tout seul. On est vraiment accompagné jusqu'à la fin. Et moi, j'ai beaucoup aimé les glissements. Parfois, ça arrive assez souvent. C'est-à-dire qu'on passe de l'histoire principale à des souvenirs qui sont souvent des portraits. D'ailleurs, on va y revenir. Et puis, on retourne au récit principal. Et ça m'a beaucoup fait penser à l'enfance aussi. Et c'est souvent une parole, d'ailleurs, qui rappelle Colline à ce qui se passe, qui le sort de son souvenir. Et ça, c'est vraiment les rêveries de l'enfance. C'est vraiment les grands qui parlent et puis l'enfant qui s'éloigne un peu de ce qui se dit, ne comprend pas et commence à... Puis il y a aussi la force de la nature qui entoure Colline et qui l'appelle aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment très... très réussi, et c'est vraiment pour moi le rythme de ce récit. Au cours d'une discussion, pour donner un exemple, Colline pense à un personnage, nous le décrit avec des phrases percutantes, enfin trois phrases et tout est dessiné du personnage, et puis la discussion revient à son oreille, et je voulais justement faire référence un petit peu au titre aussi, en quelque sorte. Quand Dolly et Catherine évoquent le vent, Dolly disait que lorsqu'elle était petite, elle aimait s'éveiller les matins d'hiver en entendant son père chanter tout en allumant le feu dans toutes les pièces de la maison. Quand il fut devenu vieux après sa mort, elle entendait encore sa voix parfois dans le champ d'herbe. Le vent, disait Catherine, et Dolly lui disait « Mais le vent, c'est nous. Il recueille et se rappelle toutes nos voix, puis il les reproduit, il les fait parler, raconter à travers les feuilles et les champs. J'ai entendu papa aussi clair que le jour. » Donc, il y a comme ça, enfin, quelque chose des voix, de comment les enfants entendent les voix, comment les enfants se souviennent des voix. Et là aussi, je crois qu'il y a vraiment la poésie de Truman Capote. Est-ce que ça vous a aussi...
Oui, je trouve que Truman Capote, il était excellent dans prendre des symboles de la nature. Dans ces cas-là, les vents, il est très symbolique. Et les porter dans les territoires qu'il veut explorer. Lui, il veut une magie. Et cet univers de l'enfance qui se porte vers l'adolescence. Et toute cette nostalgie. Le roman, il est très nostalgique. Et les vents, par exemple, tel que tu l'as décrit, il joue cette carte de la nostalgie d'une façon excellente. Il réapparaît peu à peu. Ça, c'est pas vraiment une chose qui est très évidente, mais il y a tellement de détails par rapport à cette vent, à la nature, comment il nous porte nos souvenirs, nos passés, et comment nous, on va devenir aussi du passé à un moment donné. Ça, c'est très présent dans l'histoire.
Et je rebondis juste une seconde sur, parce que vous parlez de ces images justement qu'utilise Élodie notamment, et vous nous avez confié que vous avez lu le roman en plusieurs langues, enfin que du coup vous l'avez lu au cours de votre vie en plusieurs fois et en plusieurs langues, et je voulais savoir parce qu'effectivement il y a une très jolie écriture chez Truman Capote, notamment dans les images et le choix, voilà, on sent une vraie poésie, et je voulais savoir est-ce qu'à chaque fois il y a véritablement une expérience de lecture différente par rapport notamment au style de Capote.
Je trouve que c'est évident que c'est différent quand tu lis, parce que tu maîtrises déjà pas chaque langue de la même façon, et la traduction après ça joue un rôle. Après, la première fois que je l'ai lu c'était en espagnol, et j'ai trouvé ça excellent, comme j'ai déjà dit. Après, je l'ai lu deux fois en anglais, et je l'ai révisé un peu en français pour cette émission. Je trouve que la traduction en français, elle est excellente. Je trouve que ça prend les styles et les côtés métaphoriques de façon très, très, très belle. J'ai rien d'autre à rajouter. Je trouvais très joli. Après, c'est vrai que quand l'anglais, c'est une langue que je maîtrise moins, c'est peut-être un peu plus difficile. Notamment parce que Truman Capote, c'était quelqu'un qui a un niveau de maîtrise de l'anglais exceptionnel. Donc, il est très riche. Et le plus que l'anglais c'est riche, le moins facile que c'est. Il y a tellement d'adjectifs, tellement de... Il paraît, c'est une anecdote, il paraît qu'il y a 5 ans ou à 4 ans, Truman Capote s'est promené dans son village avec un dictionnaire. Et il paraît qu'il connaissait... lui, il s'est vanté. C'était quelqu'un un peu très centré sur lui-même. Il s'est vanté de connaître plus de mots que tout le monde. Et on le voyait avec son dictionnaire, qu'il était apparemment plus grand que lui, parce qu'il était très petit. D'accord. Donc, c'est pas facile de lire en anglais. Ça, je préviens celui qui... Après, c'est un plaisir.
Oui. Non, c'est vrai que la traduction... Moi, la traduction française, on sent... Le style est très joli. Enfin, c'est-à-dire,
on sent
très bien la poésie. Elle est très bien rendue. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous demander en anglais comment vous l'aviez ressenti. Je reviens rapidement sur les portraits de personnages. C'est vrai qu'Élodie parlait de cette tenue du texte qui alterne entre à la fois action et puis ces petits détours par des portraits de personnages qui nous sont décrits à la fois... Enfin, voilà, ça ne s'étend pas en longueur, mais c'est très efficace et on se figure tout de suite le type de personnage, le personnage qu'on a en face de nous. Et à chaque fois, effectivement, vous le disiez quand vous présentiez ce livre, des personnages un peu excentriques, toujours un peu à la marge, jamais tout à fait comme les autres, oui, voilà. Donc il y a Dolly, on l'avait dit, il y a aussi le juge qui vient les rejoindre. Il y a Catherine, Colline, et puis à la fin cette figure qui arrive et qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est Sistaïda qui arrive à la fin. Alors je voulais vous demander si vous aviez une affection particulière pour l'un de ces personnages, puisqu'ils ont tous véritablement une empreinte à eux et puis une spécificité.
Moi je les aime tous, ça c'est facile à dire, mais précisément parce que tous sont tellement différents à ce qui c'est la norme, et c'est ce que je trouve que c'est ce qui cherchait Capote. Et je pense que, après je reviendrai sur mon personnage favori, mais je trouve que lui, il habitait à Alabama. Le roman, il a un côté autobiographique. Lui, il habitait chez sa tante. Il a aussi été abandonné par ses parents. Sa mère n'était pas décédée comme dans les romans, mais lui, il a vécu cet abandon. Et du coup, lui, il habitait dans ce village de l'Amérique profonde, disons. Et lui, il était très différent au l'entourage. Il était très particulier. C'était un personnage vraiment différent de tout ce qui l'entourait. Et je trouve que c'est ça qui rajoute ce côté, personnages différents, mais qui sont aimés. Parce que lui, il voulait être aimé dans cet entourage si normal, disons. Mais lui, il était très petit, il était très efféminé. Physiquement, il était très particulier. Et c'était déjà un intellectuel, à 4 ans presque. Donc, c'était un personnage. Déjà, c'était un personnage. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que lui, il aime tellement tous ces personnages qui sont différents. Il les rend tellement humains et quotidiens en même temps. C'est ça la force du livre. Et pour revenir à mon personnage favori, c'est très facile. Je pense que c'est le personnage favori du livre. C'est Dolly. C'est presque c'est pas la protagoniste, mais c'est un peu le déclencheur de l'histoire du roman. Dolly, c'est sa tante, elle a 60 ans. Et c'est un personnage fascinant. Je trouve que c'est un de mes personnages favoris, pas seulement du roman, de la littérature. Parce qu'elle est simple, elle est très gentille. Elle est très... C'est très difficile à exprimer. Je propose de lire un petit extrait parce que Truman Capote, il fait plusieurs descriptions des personnages, notamment d'elle, il l'a décrit sur plusieurs points de vue. Il y a un point de vue tout au début, quand lui, il arrive à la maison, Colin, il arrive à la maison, où il y a Verena et Dolly. La première rencontre avec Dolly, il est présenté un peu de... par rapport à son arrivée à lui dans la maison. Je propose de lire ça. Et simplement dire que lui, à ce moment-là, il a perdu sa mère. Donc tout le monde a un peu de la pitié pour lui, pauvre petit garçon qui a perdu sa mère. Donc voilà. J'ai fait de mon mieux pour avoir l'air éploré parce que je savais que cela faisait plaisir aux gens. Pas un homme dans la ville qui ne m'offrit pas une glace ou une boîte de maïs grillée au caramel. Et à l'école, j'ai reçu de bonnes notes pour la première fois de ma vie. Aussi me fallut-il un certain temps avant de retrouver assez de calme pour remarquer Dolly Talbot. Et quand je l'ai fait, j'ai tombé amoureux. Imaginez un peu ce que dut être pour elle l'arrivée dans la maison d'un garçon de 11 ans, bruyant et furieux. Elle s'est sauvée au seul bruit de mes pas, et quand elle ne pouvait m'éviter, elle s'est repliée sur elle-même, comme les pétales d'une sensitive. Elle était de ces gens qui, dans une chambre, peuvent se déguiser en un objet quelconque, une ombre dans un coin, et dont la présence est un événement délicat. Elle portait des souliers les plus silencieux et des simples robes virginales dont l'ourlet lui frôlait les chevilles. Bien que plus âgée que sa sœur, elle avait l'air d'avoir été, comme moi, adoptée par Verena. Attirés et guidés par la gravitation de l'astre de Verena, nous tournions séparément dans les espaces extérieurs de la maison. Ça envoie une idée du personnage. Déjà qui se cache dans les ombres, qui veut passer discrète. C'est un peu la gentillesse en état pur, mais très effacée par rapport à Verena, que c'est le personnage un peu plus négatif du roman.
Et plus, un personnage beaucoup plus forte, quoi, sauf à la fin, mais c'est qui dégage quand même une force très différente, du coup, qui la différencie beaucoup des autres personnages. Alors, vous le disiez, certains personnages sont un peu excentriques, un peu à la marge, et Truman Capote était lui-même quelqu'un d'assez original, d'assez excentrique, et vous avez voulu, dans cette émission, qu'on entende sa voix qu'on ne peut pas oublier. Dès qu'on l'a entendu une seule fois, on la reconnaît ensuite. Donc on va entendre l'extrait d'un entretien qui date du 16 septembre 1966, c'est donc l'année où il va publier ce livre qui aura un succès phénoménal, De sang-froid.
Fascinated by death, don't you think everyone is?
Ne pensez-vous pas que tout le monde l'est? Je veux dire, j'ai écrit et publié mon premier livre à 22 ans, Les Domaines Hantés.
And I think
Et dans ce livre, il est tout à fait clair que j'étais dans une certaine mesure fasciné par la mort. Mais je pense que la plupart des gens qui ont une nature plutôt mystique et poétique sont fascinés par la mort. Vous pensez que, obsédé par la mort, j'ai écrit ce livre documentaire de sang-froid, à la fois comme un prétexte et comme poussé par la malice de la nature humaine.
Alors, dans cet extrait, on peut entendre la voix de Capote, et c'est d'ailleurs dommage que nous, on l'a vu en vidéo. Et c'est dommage aussi qu'on ne voit pas Truman Capote, parce que c'était aussi, voilà, il est aussi intéressant à voir. Et tout ça pour revenir, voilà, vous nous avez dit, ça serait pour, quand vous nous avez proposé l'extrait, de nous dire pour entendre sa voix un peu particulière. Et c'est vrai que Capote est un écrivain de grand talent, mais c'était aussi une personnalité publique et presque mondaine. Une personnalité qui suscite encore l'intérêt et la fascination, comme on le voit par exemple avec le film de Truman Capote, qui s'appelle Truman Capote, qui a été réalisé par Bennett Miller et sorti en 2005, qui retrace l'enquête qu'a mené Capote pour pouvoir écrire De sang-froid, donc le roman qui relate le meurtre par deux assassins d'une famille de fermiers dans le Kansas. D'ailleurs, c'est encore amusant parce qu'Élodie, quand j'ai, avant même d'avoir parlé de la voix de Capote, quand j'ai évoqué ce film, m'a dit « Ah oui, c'est vrai, on entend cette voix étrange ». Et d'ailleurs, c'est vrai que l'acteur, donc la voix de Philip Seymour Hoffman, incarne très bien ce personnage de Truman Capote, et d'ailleurs il a obtenu l'Oscar du meilleur interprète pour ce rôle. Donc effectivement, un auteur, une personnalité qui est tout de suite reconnaissable, et on voit notamment à travers ce film à quel point il a marqué les esprits. Et il y a un autre film qui est d'ailleurs sorti un an juste après et qui vient continuer un peu toute cette fascination que suscite Truman Capote. Sans compter en plus les nombreuses adaptations que continuent de susciter ses œuvres au cinéma ou au théâtre. On pourrait citer par exemple juste le film devenu culte, Diamant sur canapé, adapté de Petit Déjeuner chez Tiffany avec Audrey Hepburn. Mais en voyant tout ça, on se dit effectivement que Truman Capote, c'est un écrivain, mais qui suscite aussi une certaine forme de fascination par sa personnalité, non ?
Oui. Pour revenir à sa voix, il paraît que sa mère détestait cette façon de s'exprimer de lui, et lui, il était très angoissé pour ça, parce qu'il voulait que sa mère l'aime. Sa mère l'avait abandonné quand il était petit, et il paraît que sa mère aimait pas son côté flamboyant. Il était très flamboyant, très efféminé, dès bien petit, et je pense qu'il a souffert parce que lui, il voulait être authentique dès le départ, dès très petit. On l'a dit dans toutes les personnes qui l'ont connu dans sa vie, il a dit qu'il était bien petit, il était très authentique avec cette voix très haut perché, c'est pas comment dire.
Oui, c'est ça.
Et c'est son côté flamboyant. Il s'habillait d'une façon assez bizarre. Et il avait cette élégance du sud des États-Unis, avec cette maîtrise de la langue, mais avec ses côtés physiques très petits, très efféminés. C'était un personnage, mais vraiment hors du commun, où il allait, dans toutes les ambiances où il allait. Mais en même temps, lui, il avait un côté, c'est ce qui lui a fait son côté mondain. Ça vient aussi de son côté, son possibilité de faire des affabuler sur la vie des gens. Il écoutait la vie des gens. Il paraît que tout le monde les racontait toute sa vie. En fait, il a écrit plein des petits portraits sur des personnages, notamment il y a une sur Marilyn Monroe. Donc il écoutait tous ces gens, il les racontait, il les faisait plein de confidences, il racontait sa vie, et lui transformait tout ça dans des petites anecdotes et dans des histoires qui étaient fascinantes. Donc il racontait tout ça à tout le monde, il était tout le temps en train de raconter des histoires. Donc finalement, malgré cette physique et cet aspect qui ça aurait pu devenir quelqu'un dont on se moque, finalement, il est devenu quelqu'un de très populaire parce que tout le monde adorait ses histoires. Il racontait tout le temps des trucs, pas farfelus, mais fascinants, sur les gens, sur la vie, sur lui-même. Et la moitié de ce qu'il racontait, probablement, ce n'était pas vrai parce que c'était un grand affabulateur. Et ça, ça a été toute sa vie comme ça. Et finalement, après le succès énorme des 200 fois, et vraiment, il est devenu à côtoyer vraiment des aristocrates, la mondanité américaine, la société, la haute société new-yorkaise. Lui, il était au milieu de tout ça. C'était un snob complet. Et donc, il allait de soirée en soirée. Et à un moment donné, il a commencé à prendre la drogue aussi. C'était quelqu'un de très mondain. Et en fait, c'est ça qui un peu l'a tué comme personne aussi, et comme artiste. Parce qu'après 200 fois, il n'a rien pu écrire. Il est arrivé tellement long qu'il a eu la reconnaissance de tout le monde. Et un peu s'est contenté de cet univers glamour dans lequel il vivait. Et il a commencé à faire des apparitions dans les plateaux de télé. Ouais. Il apparaissait à la télé, c'était quelqu'un de médiatique. Et c'est ça un peu qui a fini un peu sa carrière, un peu, je trouve.
Oui, c'est vrai que je suis tombée sur une émission, un plateau américain où il était invité. Et il y a Groucho Marx à côté. Alors, avec les deux, on se dit que vraiment tout est possible et qu'il ne faudra pas croire un mot de ce qui allait être raconté. Je voulais revenir un peu sur l'œuvre quand même, parce que ça reste un auteur, et avec De sang-froid, dont on parle beaucoup dans cette discussion, il a quand même apporté quelque chose à la littérature de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, qui aujourd'hui a encore une influence très très forte. Je lisais notamment des témoignages d'écrivains français. Et c'est vrai, quand on pense à l'œuvre, par exemple, d'Emmanuel Carrère, on voit tout de suite comment l'œuvre de Capote peut influencer une œuvre comme celle d'Emmanuel Carrère. Je ne parle pas des auteurs américains aussi qui subissent cette influence, mais c'est vrai que le témoignage d'Emmanuel Carrère était vraiment intéressant. Lui aussi a écrit à partir d'un fait divers, c'était l'adversaire et l'affaire Jean-Claude Roman, là aussi l'histoire de quelqu'un qui a menti toute sa vie puis qui a tué toute sa famille, et il explique qu'il a relu De sang-froid au moment de commencer ce travail sur ce livre, qu'il a relu tous les ans, et il y a eu un rapport de tension en fait entre son propre projet et une envie de copier Truman Capote, hein, il le dit ouvertement, et l'adversaire est un peu une libération de cette influence, puisque Truman Capote veut faire un récit impersonnel de son histoire, alors que Emmanuel Carrère a pris l'habitude de s'inclure lui-même dans l'histoire, de raconter l'histoire à la première personne. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette œuvre peut avoir autant d'influence encore sur les écrivains américains, sur les écrivains français? Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie... Beaucoup d'écrivains travaillent à partir du réel, quoi.
Mmh. Oui, c'est une œuvre que, sans doute, ça a marqué. Ça a marqué la littérature américaine et la littérature mondiale. Ce qui est incroyable aussi, c'est penser que cette œuvre, ça a été anticipée pendant 4-5 ans, parce que lui, il était allé au Texas, au Kansas, pour faire des entretiens pour tous les gens reliés avec ces meurtres, pour suivre l'enquête. Et il a passé 4 ans, mais dans ces 4 ans, il était déjà quelqu'un d'un peu médiatique, parce qu'il avait déjà écrit Breakfast at Tiffany's. Donc, ce livre, il était très anticipé. Toute la société américaine, il était... Bon, il va sortir quand, ce livre? Ils ont mis beaucoup d'années, cette enquête. Il y a eu beaucoup d'appels dans cette enquête. Ça a duré 4-5 années. Donc, lui, il voulait pas finir son livre tant que l'histoire n'est pas finie. Parce qu'il voulait qu'il soit absolument réel. Lui-même, il disait, ce livre, il est complètement réel, phrase par phrase. C'est pour ça qu'il veut fonder une nouvelle littérature qui s'appelle la non-fiction novel, basée sur des événements complètement réels. Selon lui, pas selon lui, ça c'est un truc nouveau, parce que ça s'avait pas fait. Cependant, je trouve que après, il y a beaucoup de gens qui ont mis en cause cette histoire.
Bien sûr, oui.
Ils connaissant Capote et sa capacité affabulatrice, tu te rends compte que c'est pas possible que lui, il ait fait une chose sans toucher un peu. Il y a des témoins qui disent que lui, il avait exagéré sur certaines situations, que des conversations ne se sont pas vraiment produites. Donc, c'est pas si non-fiction que ça. Mais en tout cas, c'est tellement présenté comme de l'action vraie, et c'est tellement crédible. C'est oui. tellement crédible. Les personnages sont tellement réels et tellement vivants que tout le monde y a cru. Et ça, ça a généré une nouvelle tendance. Et même en Espagne aussi, il y a Eduardo Mendoza qui a écrit la Verdad sobre el caso Savolta. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français.
La vérité sur le cas...
Savolta.
Il me semble que c'est la traduction littérale.
Mais... Donc aussi, c'est tiré d'un événement réel. Il a fait toute une enquête pour présenter ça comme la réalité. Donc oui... Donc, lui, je pense que Capote, ça fait partie de la littérature américaine, pas seulement du siècle XXe, hein, parce que
oui.
la littérature américaine, c'est surtout pour moi le siècle XXe où ça excelle le plus. Je trouve que 200 fois, ça fait partie du grand roman américain de toute la vie.
Alors, on va se diriger vers le troisième et dernier extrait que vous nous avez proposé pour cette émission. Donc, nous allons l'écouter. Tout simplement. Et puis, on découvrira par la suite pourquoi vous l'avez choisi. Donc, il s'agit d'un extrait de la bande-son du film composé par Elmer Bernstein, du Silence et des Ombres, adapté du livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, un roman de l'américaine Harper Lee, paru en 1960, To Kill a Mockingbird, pour le titre original, à la fois du film et du roman. Alors Jordi, après cet extrait, ma question sera assez simple finalement. Pourquoi ce morceau ?
Eh ben, To Kill a Mockingbird, le roman qui s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en France, c'est très relié avec Truman Capote et avec la harpe d'herbe. Ce roman l'a écrit Harper Lee, Nellie Harper Lee. Nellie Harper Lee, c'est une amie d'enfance de Truman Capote. Et d'enfance et de toute la vie, une amie de longue date de Truman Capote. Ils sont habités dans le même village, Alabama, quand Truman Capote il a été abandonné par sa mère chez sa tante. Sa voisine, ses voisins, c'était les parents de Harper Lee. Et Nellie, qui avait plus ou moins la même âge que lui, je ne sais pas s'il était un peu plus âgé, je ne me souviens pas, j'ai peur de me tromper là. Mais en tout cas, ils étaient tous les deux enfants, et ils ont passé cette enfance ensemble, dont ils ont trouvé ensemble cet arbre dans un champ à côté de ses voisins. Et ils ont allé dans cet arbre ensemble. Nellie et Truman Capote, ils ont partagé toute son enfance. Ils sont devenus amis pour toute la vie. Et dans ce roman qu'a écrit Harper Lee, qui a gagné le prix Pulitzer et qui, à son tour, c'est un des romans les plus importants de la littérature américaine, je pense qu'il est même au-dessus de 200 fois, si on se guide pour les études qu'on fait. Et il est souvent dans les top 3, dans les trois romans les plus américains les plus importants. Donc, dans cette histoire, dans ce roman, To Kill a Mockingbird, elle présente aussi des souvenirs de son enfance à elle, dans cet Alabama des années 30. Et aussi cet univers de l'enfance, qui le soundtrack, la musique du film, elle a très bien saisi. C'est très évocateur de l'enfance, de cette Amérique, un peu de rêve des années 30, avant la guerre peut-être, et de l'enfance, et de la nostalgie. Et dans ce roman, elle décrit sa vie un peu, presque quand elle était petite. Elle allait écouter son père qui était avocat. Elle allait écouter, elle allait au tribunal, l'écouter défendre des cas. Notamment un cas où il y avait un blanc qui était accusé de violer une femme blanche et à tort. Donc, ça raconte cette histoire avec l'histoire du racisme dans les États-Unis, etc. Mais dans cette histoire, elle est vue du point de vue des enfants. Les protagonistes sont trois enfants, les deux fils de l'avocat Atticus Finch, et un troisième enfant qui est un ami, un voisin, qui est très petit, qui est très particulier, même farfelu, très intellectuel déjà. Et voilà, c'est Truman Capote, évidemment. Il s'appelle Dil. Et ce personnage, c'est carrément Truman quand il était jeune. Et si tu vois le film, qui est excellentissime, c'est une recommandation absolue. C'est magnifique. Il y a Gregory Peck qui joue le rôle de l'avocat. Tu vois ce petit gamin qui est très petit, un peu faible, mais très effronté, très déjà flamboyant. C'est lui, c'est carrément lui. C'est très bien fait. Et tu vois cette relation entre ces deux univers. Hein.
Ouais. Ça dialogue d'une œuvre à l'autre.
De plus, dans son premier roman, Les Demains Hantés, il y a un des personnages qui est basé sur Nellie Harper Lee.
Ouais, donc c'est deux œuvres en miroir.
Voilà. Et en plus, je voulais rajouter aussi Harper Lee. Cette femme, elle l'accompagnait pendant l'enquête des 200 fois, pendant 4 ans, pendant qu'il faisait des entretiens pour tirer toute la vérité sur cette affaire, pour son œuvre Vérité 200 fois. Elle était son assistante et selon lui-même aussi son garde du corps, un peu sa copine, c'est un rôle assez particulier.
Eh bien, voilà, ça nous fait d'autres livres et films à découvrir aussi, c'est très riche. Et puis, ça va nous permettre, sortie vers Harper Lee, de conclure cette discussion et de nous diriger tranquillement vers notre petite chronique de fin d'émission avec une librairie dans laquelle nous étions jamais encore allés et qui est pour le coup toute trouvée, puisqu'elle s'appelle la librairie de l'arbre. Donc, après la harpe d'herbe et la cabane
c'est
dans l'arbre.
C'est quand même quelque chose.
Voilà, la transition est tout à fait trouvée et n'a pas besoin de plus d'explicitation. Donc, je te laisse la parole, Élodie.
Oui, la librairie de l'arbre, donc, c'est une petite librairie spécialisée en histoire contemporaine, en sciences politiques, humaines et sociales. Et c'est Audrey et Xavier donc, qui m'ont donné 4 conseils de lecture. Alors, le premier conseil colle tout à fait avec notre sujet. Il s'agit de L'Amérique des écrivains, publié aux éditions Robert Laffont. Il est signé Pauline Guéna et Guillaume Binet. Elle est romancière, lui est photographe. Et ils sont partis un an en camping-car aux États-Unis avec leurs 4 enfants, à la rencontre de 26 écrivains américains. Rien que ça, les vacances. Ce livre est donc le récit de leur road trip et une somme de 26 entretiens avec Russell Banks, Richard Ford ou encore Thomas Winkler. Entretiens qui sont principalement consacrés au processus de création littéraire. Un livre donc très bien rythmé, accompagné de photographies où la parole des écrivains rencontrés alterne avec le récit de ce qui est une expérience de vie en famille. Alors le deuxième conseil, c'est un conseil pour les enfants puisque maintenant on aime aussi beaucoup donner des conseils en littérature jeunesse, les enfants entre 7 et 10 ans. Ce livre, c'est « Des fourmis dans les jambes, petite biographie » de Nicolas Bouvier, aux éditions La Joie de lire. Il est signé pour les textes Ingrid Taubois et pour les illustrations Géraldine Alibeu. Alors Nicolas Bouvier, certains le connaissent, hein, c'était un très grand voyageur. Avec son ami Thierry Vernet, il est parti à 23 ans dans une Fiat Topolino. C'est très important parce qu'ils ont eu beaucoup de galères populaire avec leur voiture, pour un voyage de 16 mois qui le mènera de l'Europe de l'Est à l'Afghanistan. Un livre qui donne donc envie de voyager, qui raconte le périple de ces deux amis, mais aussi leurs sentiments quand ils rentrent de voyage et qu'il y a un certain sentiment de vide et qu'il faut arriver à le combler. Donc peut-être que les parents qui ont lu L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est une œuvre absolument magnifique, auront plaisir à raconter donc des fourmis dans les jambes à leurs enfants. Et les deux derniers conseils font un écho à l'actualité. D'abord, Crime climatique stop, l'appel de la société civile. Ça a été publié donc au Seuil avant la COP21. Ce livre, qui veut alerter donc les consciences sur les dangers du dérèglement climatique, rassemble des contributions de personnalités, de chercheurs, mais aussi de réfugiés climatiques. Et enfin, dernier conseil, Dialogue sur la nature humaine, vaste programme, que les éditions de l'Aube font reparaître avec des illustrations de Pascal Lemaître. Il s'agit de la retranscription d'entretiens radiophoniques entre le philosophe Edgar Morin et le psychanalyste Boris Cyrulnik. Une lecture donc très accessible, un vrai partage de points de vue entre deux penseurs de notre temps. Voilà pour les conseils de lecture.
Eh bien, merci Élodie. Il est temps de nous saluer et de nous remercier. Alors, c'est surtout moi qui vais remercier, qui vais faire aussi une petite dédicace. Donc d'abord, merci beaucoup Jordi pour cette discussion très riche et très agréable.
Merci à vous de m'avoir invité, voilà. Surtout.
Merci beaucoup.
Merci à Sébastien, à la régie. Et puis, merci aussi Élodie, hein, on peut te remercier. Et puis, on peut surtout te féliciter, puisque maintenant, ce n'est plus Élodie Karaki, mais le docteur Élodie Karaki, puisque cette thèse est enfin soutenue et avec de grandes félicitations du jury. Félicitations.
Merci. Et les nôtres aussi. Bravo, félicitations.
Le livre de Frog.
Littérature, livre, invité.
Le livre de Frog.